comme chaque mardi, c'est l'heure de décrypter l'actualité française avec Frédéric Suto. Bonjour Frédéric.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors tout d'abord, eh bien, on va parler politique, hein, bien entendu. Revenons sur les premiers débats télévisés des candidats à la primaire. C'est pour la gauche.
Les 7 candidats de cette primaire de la gauche qui se tiendra les 22 et 29 janvier prochains, ça arrive à grands pas. Alors primaire rebaptisée primaire de la Belle Alliance Populaire, elle met aux prises les candidats du Parti Socialiste, mais pas seulement, on va le voir. Celui ou celle qui en sortira vainqueur, en tout cas, sera le candidat de cette alliance à l'élection présidentielle d'avril prochain. Le premier débat télévisé, il avait lieu jeudi dernier, le second c'était dimanche, sachant qu'il y en aura un dernier jeudi prochain, soit 3 jours avant le vote. Alors, attardons-nous sur le premier de ces débats qui a donné le là un petit peu de la campagne. Eh bien, en gros, tous les candidats ont eu en cumulé un quart d'heure de parole, hein, pas plus, un quart d'heure saucissonné tout au long des 2 heures de l'émission. Vincent Peillon, l'un des 4 socialistes de cette primaire, a été l'un des plus offensifs. Hein. Il n'a pas hésité à croiser le fer avec l'ex-premier ministre Manuel Valls, qui a démissionné il y a un mois pour justement mettre toute son énergie dans cette primaire. Vincent Peillon, qui a été ministre de l'Éducation au début du quinquennat de François Hollande, 2012-2014, avant le changement de premier ministre et l'arrivée de Manuel Valls. Vincent Peillon a dénoncé, en s'adressant directement à Manuel Valls, une culture du coup de force et du 49-3. Il a stigmatisé cette gauche sectaire et brutale. Le 49-3, hein, vous savez, c'est cet article de la Constitution qui vous permet d'adopter un projet de loi sans le vote des députés, passage en force en quelque sorte. Le gouvernement de Manuel Valls l'a beaucoup utilisé ces 2 dernières années, notamment pour faire passer la réforme sur le code du travail. Et depuis un mois, eh bien, l'ex-premier ministre Manuel Valls a bien du mal à se défaire de cette image d'homme de fer avec le 49-3. Il s'explique, il avance que s'il est élu président de la République, eh bien, quitte à prendre le contre-pied de ce qu'il a fait en tant que Premier ministre, il réduira la possibilité d'utilisation de ce 49-3. Voilà la réponse de Manuel Valls.
Oui, ça reste à voir tout ça. Alors, ces 7 candidats, on s'en doute, 7 candidats à la primaire, ont bien entendu été interrogés sur le quinquennat de François Hollande.
Oui, alors un bilan contrasté, a dit François de Rugy du Parti écologiste. Un bilan qu'il convient de porter, a rétorqué Sylvia Pinel du Parti radical de gauche, laissant entendre qu'il n'était pas si mauvais que cela, ce bilan. Benoît Hamon lui a regretté un bilan inachevé. Une profonde incompréhension, a dit Vincent Peillon. Encore un bilan difficile à défendre, dixit Arnaud Montebourg, l'ex-ministre du redressement productif, qui était ministre au début du quinquennat. Critique à peine voilée aussi de Jean-Luc Benamias du Parti démocrate. Tous ont donc cherché à se démarquer du bilan d'un président de la République qu'ils ont pourtant soutenu au début du quinquennat. Il n'y a finalement que Manuel Valls, et pour cause, qui a mordicus défendu le bilan de François Hollande. Manuel Valls a parlé de sa fierté, mais on sent bien à l'issue de ce premier débat qu'il y a comme une entente tacite de la part des autres candidats, entente tacite pour faire barrage à Manuel Valls, un front anti-Valls en quelque sorte.
Et parmi les sujets abordés également, un peu plus techniques, celle du revenu universel.
Oui, cette proposition dont on parle beaucoup en France depuis quelques mois, c'est la proposition phare de Benoît Hamon, accordée à tous les citoyens à terme. Un revenu de base, comme cela se fait déjà dans certains pays, scandinaves notamment, un revenu universel pour ceux au départ qui n'ont pas de revenus ou des revenus très bas. Revenu universel qui serait versé tous les mois, 600, 700 ou 800 euros, le montant reste à définir. La mesure s'appliquerait d'abord aux 18-25 ans et serait ensuite étendue aux autres catégories, aux retraités notamment, qui touchent des pensions dérisoires. Cette mesure, seul Jean-Luc que Benamias, parmi les autres candidats à cette primaire, la soutient, tout comme Benoît Hamon. Tous les autres, au contraire, estiment que ce n'est pas tenable. Cette mesure coûterait des centaines de milliards par an à l'État. Et si l'idée est louable, faire en sorte que chaque citoyen ait de quoi assurer ses besoins de base, eh bien, certains, et pas qu'à droite, dénoncent une mesure qui ne ferait qu'entretenir les gens, qui pousserait un peu plus loin la culture de l'assistanat. D'ailleurs, c'est ce qu'a répondu entre les lignes Manuel Valls en expliquant qu'il voulait, lui, une société de travail, le travail en opposition au revenu universel et en pointillé à l'assistanat.
En tous les cas, malgré les joutes verbales, les piques des uns envers les autres, on peut dire que la donne, elle, n'a pas changé.
Oui, ils sont toujours sept en place, pour une seule place, ces sept candidats à la primaire de la gauche. C'était le cas déjà pour la primaire de la droite fin novembre, primaire remportée par François Fillon. Mais à la grande différence de ce qui s'est passé à droite, là, celui ou celle qui sortira vainqueur le 22 ou le 29 janvier ne sera pas tout seul, puisque vous avez aussi, en parallèle de cette primaire, les candidatures indépendantes de Jean-Luc Mélenchon et celle d'Emmanuel Macron. Ils ont décidé tous les deux de faire cavalier seul, d'être directement candidat à la présidentielle d'avril prochain, sans passer par la case primaire. Il faudra donc se partager le gâteau, ce qu'il en restera, tant la dynamique d'Emmanuel Macron, l'ex-ministre de l'économie qui a démissionné en août dernier, fait des ravages, puisque les dernières enquêtes d'opinion le créditent de plus de 20% d'intention de vote. Emmanuel Macron qui ferait même jeu égal avec François Fillon et Marine Le Pen.
Et oui, cette élection va être intéressante. Allez, autre sujet à la une, la terrible épidémie de grippe qui a frappé toute la France, hein, partout dans le pays.
Oui, Marisol Touraine, ministre de la Santé, a averti que le bilan de cette épidémie serait probablement très lourd et que le pic n'était pas encore atteint. En un mois, près de 800 000 personnes auraient consulté un médecin généraliste pour une grippe, c'est énorme. Et les cas graves avec complications respiratoires sont très très nombreux. Les personnes les plus touchées, eh bien, ce sont les personnes âgées à partir de 65 ans. Avec cette épidémie qui amène des centaines de personnes dans les hôpitaux complètement engorgés, il n'y a plus assez de lits de disponibles pour accueillir, pour soigner correctement tous les malades. Et on a demandé dans différents hôpitaux de France à repousser certaines interventions de la chirurgie qui n'est pas urgente pour faire de la place aux malades de la grippe. Depuis le début de l'épidémie, plus de 50 personnes sont mortes des suites du virus qui est particulièrement virulent cette année, comme cela avait été le cas il y a deux ans de cela, avec ce cas emblématique hein, d'une maison de retraite près de Lyon où 13 personnes sont décédées dans la même maison de retraite, décédées de la grippe. Alors il existe pourtant un vaccin contre la grippe, mais il ne protège pas à coup sûr. Les personnes âgées sont très exposées. Et surtout, il apparaît que ce vaccin n'est pas assez utilisé, notamment par tout le personnel soignant dans une maison de retraite ou dans un hôpital. Si le médecin ou l'infirmière n'est pas vacciné et qu'il contracte la grippe, eh bien, il peut transmettre, bien entendu, la maladie aux malades qui sont bien plus vulnérables. Il y a donc d'énormes progrès à faire. Il est question de rendre obligatoire cette vaccination contre la grippe pour certaines catégories de personnel.
Voilà pour le tour d'horizon de l'actualité française pour cette semaine. Merci Frédéric.
Merci, à bientôt.
Alors on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez Le Français et vous êtes sur Radio SBS, bien entendu. À tout de suite.